tous les samedis, 10h midi. Bienvenue chez Beaugrand avec Christophe Beaugrand.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur M Radio et bienvenue chez Beaugrand. On est ensemble jusqu'à midi pour parler comme toutes les semaines, musique, souvenirs, confidences, fou rire, pourquoi pas, avec l'un de vos artistes préférés, Thomas et Thomanette, comme tous les jours, enfin comme tous les samedis. Thomas, bonjour.
Bonjour.
Formidable. Notre invité du jour, c'est mystérieux, il se prénomme Julien.
Oui.
Non, ça n'est pas Julien Lepers. Ce n'est pas ce Julien-là. Non. Mais vous avez le prénom. Deuxième indice pour le reconnaître.
Dès que je te vois, tout s'éclaire.
Une super chanson signée Adamo qui s'appelle Claire. Donc vous avez le nom et le prénom. Julien et Claire, ça donne Julien Claire. Et ça ne s'écrit pas pareil. Bonjour Julien Claire.
Bonjour.
Comment ça va?
Ouais, ça m'a fait quelque chose d'entendre Adamo. Vous savez que c'était... La première fois que je passais sur scène, c'était en première partie d'Adamo.
J'ai vu ça dans votre biographie, ouais.
Et oui. C'était d'ailleurs un artiste formidable avec
généreux.
Généreux.
Vous aviez pas trop d'écartage, 3-4 ans avec Adamo, quelque chose comme ça, ou 4 ans peut-être.
Peut-être.
Et il avait déjà commencé sa carrière depuis plusieurs années. Ouais.
Puis c'était une absolue idole.
Ouais.
Et c'est un public tellement gentil, un public très populaire. Très empathique, comme ça, c'était pour un jeune artiste.
Donc très accueillant pour vous, pour un jeune artiste.
Très accueillant.
Est-ce que ça vous gêne si on vous dit que vous êtes un monument du patrimoine de la chanson française? Vous avez un peu trop pompeux ou ça vous va?
Oui, c'est un peu... C'est gentil, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que finalement, quand la vie vous permet de semer ce que vous avez récolté, et c'est vrai que quand j'ai commencé, bien sûr que j'étais heureux d'être chanteur, éventuellement de rencontrer des filles.
Ah d'accord, vous avez ça pour ça. Ah ben oui.
De gagner bien ma vie, mais quand même, ce qui m'importait le plus, c'était d'être respecté pour ce que je faisais, ouais. Étrangement. C'était ça qui était
mon pour votre mon travail auteur, artistique, quoi.
Voilà. Et en particulier par mes pairs. Ça comptait pour moi que les gens qui fassent le même métier que moi, même bien.
Et je sais que ce qui vous touche aussi, c'est qu'aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup de chansons qui sont extrêmement connues du grand public, aujourd'hui, il y a des enfants qui apprennent votre chanson dans les écoles. Mais certaines chansons, ça c'est génial.
Oui. Et puis c'est une bonne... ça me fait plaisir pour les auteurs, parce que comme on le sait, je n'écris pas mes paroles et j'ai toujours mis mes auteurs en avant, parce que ouais. Je leur devais énormément, donc ça fait plaisir pour ceux qui ont écrit des paroles pour moi.
Votre dernier album sorti il y a quelques mois s'appelle Une Vie, il y a une réédition avec des versions inédites, un vinyle picture disc, les collectionneurs vont être gâtés pour Noël, ça c'est sûr, et puis les concerts arrivent aussi, grosse tournée 2026-2027, on aura l'occasion d'en parler. J'ai envie qu'on écoute pour le coup l'une de mes chansons préférées de l'album, Les Parvis, sublime chanson, et on en parle juste après, Les Parvis sur M Radio avec Julien Clerc.
M Radio. Tous les samedis, 10h midi. Bienvenue chez Beaugrand avec Christophe Beaugrand.
C'est Julien Clerc, notre invité ce matin sur M Radio. On est ensemble jusqu'à midi. Merci d'être avec nous, Julien.
Merci.
Vous êtes venu avec votre nouvel album sous le bras, Une Vie, votre 28e album.
Il tourne, il tourne, il danse sur les pavés.
Les Parvis, c'est la chanson qu'on vient d'écouter. Pour rappeler le point de départ de cette chanson et l'histoire de cette chanson, c'est l'image absolument magnifique et bouleversante de ce monsieur qui danse sur les parvis d'une église le jour des funérailles de sa femme Agnès Lassalle, qui est une professeure d'espagnol qui a été assassinée dans le Pays Basque dans sa classe. Ils avaient une passion commune, la danse. Donc ce monsieur, pour lui rendre hommage, on a tous vu l'image, a dansé tout seul sur les parvis. C'était déchirant. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est l'auteur de la chanson, Paul École, qui vous a proposé ce sujet, ou c'est vous qui aviez envie?
Non. C'est... J'ai envoyé une musique à Paul.
Ouais.
Il m'a renvoyé le texte, 15 jours plus tard, et la vidéo, que je n'avais jamais vue.
Ah oui, vous ne l'aviez jamais vue. Donc lui, il avait déjà ça en tête. Il se dit, cette histoire-là, j'aimerais la raconter.
Oui.
Quel effet ça vous a fait quand vous avez vu cette vidéo en lisant ces paroles?
J'étais comme tout le monde. J'ai été cueilli. Et ouais. J'ai tellement trouvé que c'était beau et
tragique
et touchant.
Et magnifique. Ouais.
Voilà, tragique et magnifique. Et quand il a été question de mettre la chanson en avant, si on peut dire, c'est-à-dire comme premier extrait de l'album,
ouais.
Je l'ai appelé Stéphane Voirin, puisque
donc le monsieur là qui dansait,
oui, il s'appelle Stéphane,
le compagnon
Voirin.
De d'Agnès Lassalle.
C'était un homme formidable, et j'ai pu avoir, j'étais dans mes petits souliers un peu au début, et on a pu avoir une conversation formidable parce que je trouvais ça plus correct quand même de l'appeler, dire voilà, vous, avez, oui. vous risquez d'entendre parler à nouveau de, ouais. De ça.
Oui, donc, il fallait le prévenir.
C'est quand même votre vie, quoi.
Et alors, et ça lui a fait quel effet, cette chanson? Il vous a dit quoi quand vous l'avez eue?
J'ai de la chance, parce que lui et son amour, ils aimaient mon travail. Donc, ouais. Il y a certaines chansons qui ont accompagné leur vie. Donc, mm-hmm. il a été très positif.
Il avait un a priori positif déjà. Ouais.
Et puis, en fait, il a redit avec ses mots des choses que Paul Ecole avait écrites dans la chanson, quand Paul dit me fait dire c'est encore de la vie, la vie se rallume,
oui, exactement,
etc.
Ouais, bien sûr.
Toute chose que lui m'a exprimé avec ses propres mots. Il m'a dit, il faut pas que vous censuriez, parce que tout ça, il faut que ça se termine par de la beauté.
C'était juste, en tout cas. Ce que disait Paul Ecole correspondait au ressenti de ce monsieur. C'est ça qui est formidable.
Donc, j'ai été heureux de pouvoir l'appeler et d'en parler un peu avec lui. Je pense que le plus gêné des deux n'était pas celui qu'on croit.
Vous dites ce que Paul Ecole m'a fait dire. C'est vrai que vous nous le disiez tout à l'heure. Vous avez chanté et vous chantez les mots des autres.
C'est-à-dire que je fais les musiques depuis toujours. Et qu'il m'a fallu toute ma vie trouver des gens qui mettent des mots sur mes musiques.
Donc il y a eu Étienne Rodagil, Jean-Loup Dabadie, il y a eu Plamondon, il y a eu Carla Bruni, il y a eu Serge Lama. Enfin, il y a plein de gens qui ont travaillé avec vous et qui ont su trouver les mots.
Oui, et surtout qui m'ont... Je crois que les auteurs, quand ils écrivent pour un interprète, ils mettent à la fois d'eux-mêmes,
ouais.
et en même temps, ils ont un côté un peu tailleur sur mesure.
C'est-à-dire ils se mettent dans votre peau.
Oui, et puis aussi, je crois, ils ont des sujets qui leur tiennent à cœur,
ouais.
et ils se disent, lui, il va bien me chanter ça.
Ah, ça va être le bon véhicule, c'est ça, pour raconter cette histoire.
Je crois qu'il y a ça aussi.
Vous n'avez jamais osé écrire vous-même?
Non, mais j'ai essayé au tout début.
Ouais.
Parce que quand même, j'avais un père qui adorait la poésie, qui essayait de me l'inculquer depuis des années. Et j'étais assez paresseux à cet égard. Et quand j'ai écrit des paroles, j'ai tout de suite senti, rien qu'en écrivant, que je n'avais pas ce talent.
Ouais.
Et franchement, ce n'était pas très intéressant ni très talentueux. Donc j'ai compris dès le début que les musiques, cette espèce de visitation que je ressentais, quand une mélodie me venait comme ça,
ouais.
Je n'aurais certainement pas cette inspiration-là quand il s'agirait d'écrire des mots.
C'est la mélodie qui vient d'abord chez vous, où on vous envoie le texte comme ce
les
qui
deux.
S'est passé, ce qui
il
peut
faut
se passer.
Les deux, ouais. je pense, sur un album.
Donc c'est l'un ou l'autre?
Eh ben, de mon côté, je travaille.
Ouais.
J'essaie d'accumuler quelques mélodies qu'après j'envoie à des auteurs. Et par ailleurs, je leur demande des textes que je vais pouvoir mettre en musique.
Voilà. On va écouter maintenant une autre chanson. On va l'écouter en entier et puis on en reparle juste après. Une autre chanson qui bouleverse et pour le coup qui me touche particulièrement parce que j'ai connu votre frère. Je connaissais notamment son épouse Julie avec qui j'avais travaillé. Votre frère Gérard Leclerc disparu en avion. On va écouter cette chanson Saint-Nazaire et vous nous en reparlez juste après.
Samedi, 10h midi, bienvenue chez Beaugrand.
On vient d'entendre Julien Clerc, la chanson Saint-Nazaire. Cette chanson, je le disais, pour votre frère Gérard Leclerc, disparu il y a. Ça fait plus de 2 ans maintenant.
Ça fera 2 ans au 15 août.
Ouais, ce sera 2 ans. Disparu en avion un été, c'était sa passion de piloter. On va réécouter un petit peu.
Et tant qu'il y aura le passage des avions frôlant des nuages. Je dirais sans Dieu, sans foi, sans louange. Les avions parfois ressemblent à des anges.
C'était un passage obligé dans cet album Une vie. Vous aviez envie forcément de consacrer une chanson à votre frère.
Si c'était possible, parce que vous savez, des fois, quand on n'est pas auteur soi-même, on peut avoir envie de chanter quelque chose. Encore faut-il que quelqu'un vous apporte les mots et les mots justes et le bon angle, comme vous dites quand vous êtes journaliste, pour traiter un sujet. Moi, je crois qu'on peut tout chanter en chanson. Mm-hmm. Encore faut-il trouver la façon poétique de le dire.
Et donc, c'est encore Paul Ecole,
qui
avait écrit la chanson Les Parvis qu'on a entendu juste avant.
Alors là, ça a été à l'envers des Parvis, c'est-à-dire Les Parvis, je lui avais envoyé une musique et je savais absolument pas ce qu'il allait me rendre comme parole dessus. En revanche, là, c'est moi qui lui ai demandé, je lui ai dit, évidemment, si vous êtes inspiré, j'aimerais beaucoup avoir une chanson pour mon frère. La seule autre chose que je lui ai dite, c'est si possible que je puisse faire une musique enlevée dessus. Une musique plutôt gaie.
C'est ce que j'allais vous dire. C'est ça qui frappe. C'est pas une chanson triste. C'est le contraire. C'est une chanson belle. Il y a de la poésie, évidemment, tendre, mais pas triste.
Je trouvais que mon frère ne méritait pas une chanson triste. Les souvenirs que je garde de lui, on a une façon précise de rire dans la famille, une espèce de grands éclats de rire comme ça. D'abord, il était très rieur, mon frère. Il adorait les blagues, même quand elles étaient mauvaises. Les mauvaises le faisaient...
Encore plus rire, peut-être.
Encore c'est plus ça, rire. Ouais. Et donc, c'est l'image de lui que j'ai, c'est cette espèce de grand rire là que même ont repris certaines parmi nos sœurs. Ouais. Donc si je pouvais faire une musique qui ne soit pas trop triste ou nette, ça m'importait. Voilà.
J'ai une question. Au moment de son accident, pour ceux qui s'en rappellent, il vous rejoignait
Pas tout à fait.
Il allait assister à un concert à la Baule, c'est pas, ça
Non, il allait déjeuner à la Baule.
Ouais.
Rentrait après le déjeuner et il repartirait le jour d'après où je chantais.
D'accord.
Voilà.
Du coup, vous avez quand même décidé de chanter ce lendemain de ce qui s'est passé. Est-ce qu'à un moment donné, ça vous a... vous dites ah oui tout de suite, justement, est-ce que ça vous a traversé l'esprit ou vous vous êtes dit, ben, je vais y aller, forcément.
Non, en plus, c'est très spécifiquement notre métier, je trouve.
Ouais.
C'est-à-dire que...
C'était une évidence.
J'avais la chance, déjà, c'est parce que c'est pas évident dans une famille... J'avais la chance que mon frère aime mon travail.
Ouais.
Et qu'il venait régulièrement. Il aimait ça vraiment en dehors de tout rapport de fraternité.
Oui, c'est pas juste pour faire plaisir à son frère qu'il
venait
vous voir en concert.
Donc, il venait régulièrement, etc. Donc, j'avais cette chance-là. Et il était hors de question pour moi de ne pas chanter. Mmh. Parce que même, je suis persuadé que c'est ce qu'il aurait souhaité.
Est-ce que vous avez senti forcément une attention particulière du public et peut-être un amour du public ce soir-là, parce que les gens savaient ce qui s'était passé.
On va dire que les gens ont senti que d'abord j'étais quand même très... Puisque même si j'avais décidé de le faire, je savais qu'il fallait que je présente les choses au début du concert d'une certaine façon, pour ne pas passer pour un ingrat ou quelqu'un qui s'en fout. Donc il fallait absolument...
Personne n'a pu croire ça, mais bon, mais vous avez fait une intro, entre guillemets.
Il fallait, parce que dans un tour de chant, par définition, vous avez des moments très gais.
Donc, il ne s'agissait surtout pas... dans vos chansons, il y a des chansons très festives.
Il ne fallait pas oblitérer ce côté-là. Donc, ce qui m'a pris une partie de l'après-midi, en fait, c'est ce que j'ai dit aux gens le soir avant de chanter. C'était ça qui allait installer le climat du concert et libérer les gens pour être gays quand il le fallait, que cette affaire, c'était mon affaire à moi.
Ouais.
Mais que de toute façon, me semble-t-il, c'est la façon dont je vois mon métier. C'est-à-dire qu'il est hors de question de ne pas chanter. Ce côté « the show must go on » est une chose qui est très importante quand on a la chance de faire le métier que je fais. Rien ne doit nous détourner de... Bon, Dieu m'en garde. S'il m'arrivait encore un grand malheur comme ça, si je devais chanter, je pense que je chanterais. Ne serait-ce que pour penser à la personne qui est partie pendant toute la soirée.
Et une magnifique chanson. Les avions parfois ressemblent à des anges. Cette phrase, elle est magnifique. Phrase donc signée Paul École avec votre musique pour la chanson Saint-Nazaire. On va continuer à parler de votre carrière, mon cher Julien, qui dure depuis quelques petites années maintenant. Hein. Ça commence.
Je vous coupe juste pour terminer avec ça.
Oui, pardon. Allez-y.
C'est qu'on n'est pas intime avec Paul École, du tout.
Mmh. Oui, j'ai vu que vous voyez, vous disiez...
Il a travaillé sur photo. Enfin, il a regardé une photo de mon frère et moi, et c'est incroyable ce qu'il en est sorti de cette inspiration.
Vous n'avez pas discuté avec lui plus précisément de votre vie ?
De rien. Mais c'est surtout aussi cette façon qu'ont les auteurs de talent qui vous devinent ou qui savent des choses sur vous et qui les glissent mine de rien dans les chansons. Moi, je suis pas religieux. J'aurais aimé dans la vie parfois être plus facile, religieux, parce que je trouve ça plus facile.
Oui, c'est plus facile, je confirme. Hein bon. C'est vrai.
c'est plus pratique
parfois.
Voilà. Et là, il a réussi à glisser ça dans la chanson parce que quand il dit, je dirais sans Dieu, sans foi, sans louange, il a réussi à tout mettre. Ce qui est le talent des auteurs de chansons, sur les mêmes deux lignes.
Ouais.
Je dirais sans Dieu, sans foi, sans louange. Les avions, parfois, ressemblent à des anges.
Voilà, un talent extraordinaire de Paul École. On vous conseille évidemment cette chanson sur cet album et je suis convaincu que Gérard aurait adoré cette chanson. Et il l'adore sûrement quelque part.
Oui, on l'espère.
Je suis sûr qu'il l'adore quelque part. On continue à parler de votre carrière, Julien, dans quelques petits instants. Et on va s'écouter, tiens, une de vos camarades quand vous avez fait The Voice, Jennifer, Ma Révolution, ce matin sur M Radio.
Bienvenue chez Beaugrand, 10h midi sur M Radio.
Et bienvenue à Julien Clerc qui est installé sur notre canapé rouge ce matin. Là, c'est retour vers le futur. On est retourné à vos débuts. Vous avez quoi à cet âge-là, la cavalerie? 18, 19 ans?
Ans.
À 21 quand même, je pensais un peu moins. Là, ça marche direct. Le succès,
la chanson
direct.
Passe beaucoup à la radio.
Donc c'est, on est en mai 68.
On est en mai 68, mais la radio d'État qui passe beaucoup, la chanson est en grève en fait.
Ah, donc il n'y a que de la musique.
Il n'y a que de la musique.
Ça vous arrange ça?
Ben je ne sais pas, c'est-à-dire que la chanson elle fait partie des chansons très connues de l'époque, sans qu'on sache toujours qui la chante. Et en plus, l'absolu tube de l'époque, qui est donc la Missa Criolla Alouette Alouette, est chantée par quelqu'un un son de voix qui n'est pas trop éloigné du mien, qui est Gilles Dreux.
Ouais.
Donc à l'époque, il y a des moments où ça, tout ça, il y a des petits malentendus. Mais...
Oui, surtout qu'on dit, vu qu'il n'y avait plus de, il y avait pas de présentateur, on ne disait pas le nom, donc il y avait les disques qui tournaient, on ne savait pas forcément qui
et
c'était.
Et on débutait les deux en plus.
Mais ça a démarré vite pour vous, du coup.
Ça a démarré vite. J'ai eu un public de fans.
Ouais.
Même de fanatique, on peut dire, dès le début.
Mais on réalise à ce moment-là où on a le recul ?
Non, moi j'étais bien inconscient.
Ouais.
Mais
on profite quand même.
Mais je me rends compte quand même, à la fois, enfin, j'ai un énorme, si on veut résumer, j'ai un énorme succès d'estime.
Ouais.
Le succès populaire n'est pas complètement là. Et cependant, il faut savoir que, donc on est en 68, que je vais très rapidement, en quelques mois, faire la première partie de Béco. La première partie d'Adamo.
Adamo, j'allais dire, voilà.
Ensuite, en tournée. Ensuite, Béco à l'Olympia à Paris. Et deux mois après, R. Donc, il y a un concentré là, de trucs qui m'arrivent alors que j'ai 21 ans. Et cependant, alors ce qui est incroyable avec l'époque, donc on est en 60, je vais faire R pendant un an.
Ouais.
Et très rapidement, je vais me dire. Il faut que je... C'est ce que m'avait dit Béco, d'ailleurs, à l'époque. Il m'a dit, bon, là, maintenant, ça suffit. Les pantalons violets, tu te remets en noir et tu refais Julien Clerc.
Et donc... Pour pas perdre le public. Voilà. Eh ben, c'est justement là, j'imagine, que vous avez commencé avec Rodagil en 1971, notamment avec cette chanson que j'adore.
Et là, c'est le premier vrai succès.
Vrai gros tube,
populaire,
on va dire. Ouais,
voilà,
vrai gros tube populaire.
Succès populaire. Ouais.
Et alors, il paraît que vous avez compris la signification de la chanson que plus tard.
Oui, je sais pas.
Parce qu'il paraît que c'est une chanson triste à la base.
Oui.
C'est pour quelqu'un qui est parti, en fait.
En fait, c'est pour un très proche de sa femme.
De la femme d'Étienne Rodagil.
Oui, parce qu'elle avait du chagrin.
Ouais.
Et il a écrit ça pour sa femme. Mais vous savez, les chansons. Moi, j'ai une thèse, c'est que les chansons, on ne les entend pas tous de la même façon.
Oui.
Surtout les chansons de Roda, qui des fois sont à plusieurs lectures, peuvent être ressenties selon son propre état d'esprit.
Donc on peut se les approprier, c'est ça qui, c'est ça qui fait que ça fonctionne.
Exactement.
Alors il y a une autre chanson que j'adore de vous, je me suis fait plaisir aujourd'hui tant qu'à faire. C'est un texte de Jean-Loup Dabadie et c'est Partir.
Mais c'est vrai, le temps nous prend trop de temps.
C'est une chanson.
C'est l'extrait d'un live à Champs-Élysées.
Là, ça, c'était un live à Champs-Élysées.
À Champs-Élysées.
C'est pas mal.
Ah oui, on vous voit au piano et tout.
Ah ouais, ouais. Et non, mais je veux dire, c'est pas mal chanté.
Ah bah écoutez, c'est un peu votre boulot quand même.
Quand on passait à la télé, toujours, on chante en direct, il y a un stress quand même.
Ouais.
Je veux dire, moi, j'ai toujours été. Ça n'a jamais été innocent pour moi de passer à la télévision.
Ah bah surtout qu'à l'époque, Champs-Élysées, c'était 10 millions de téléspectateurs.
C'est ça.
Hein, donc ça rigolait pas. Hein.
Voilà.
Fallait pas se louper.
Et vous aviez la life. Oui, exactement. Fallait pas se louper.
Alors, chanson particulière, parce que ce qui est marrant sur cette chanson, si vous vous rappelez, vous qui nous écoutez, il y en a deux en une. C'est-à-dire que les deux premières minutes, quasiment, c'est une chanson lente. Et puis après, ça part et c'est. C'est-à-dire que c'est pas disco, mais c'est up-tempo,
comme
on dit.
C'est une époque moins formatée qu'aujourd'hui. Donc on osait plus certaines choses.
Ah oui, parce que là, aujourd'hui, les radios vous diraient, on comprend pas. C'est une chanson lente,
dirait,
ou c'est une chanson rapide.
Ouais, c'est ça.
Alors, on est perdu.
On peut pas la programmer, quoi.
Alors, il paraît que c'est né d'une émission de télé des Carpentiers avec Sylvie Vartan. La chanson n'était pas prévue. Il fallait faire une chanson.
C'est une émission écrite pour Sylvie.
Ouais.
C'est l'émission.
Il fallait faire une séquence, c'est ça.
L'émission des variétés des Carpentiers, cette émission-là, cette espèce de mini comédie musicale avec un thème.
Ouais.
Le personnage de Sylvie partait en croisière, un truc dans le genre.
Donc partir.
Et voilà. Il m'avait demandé d'écrire, donc on a écrit cette chanson avec Dabadi pour elle.
Voilà, et finalement, c'est vous qui l'avez chantée parce que ça s'est pas fait.
On a fait d'abord un duo dans une forme musicale qui n'a rien à voir avec ça, ouais. Puis après je l'ai reprise à mon compte.
Vous avez dit, elle est pas mal quand même, je vais l'utiliser. Tiens, ouais. On va écouter un de vos plus grands tubes, ma préférence, on est en 1978.
Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est.
Chanson écrite là encore par Dabadi, ça c'est un de vos tubes, vous ne pouvez pas ne pas la chanter, j'imagine, sur scène.
Ah bah oui, ça fait partie des chansons que j'appelle les incontournables.
Ma préférence.
J'aime bien citer ce mot de McCartney qui dit, quand je vais voir les Stones, s'ils chantent pas Satisfaction, je demande à être remboursé.
Alors je pense sur une autre de vos chansons historiques, ça, celle-là, je sais pas si vous la chantez toujours en concert, 1984, Mélissa.
Ah bah ouais.
Alors ça, moi, j'avais 7 ans, c'était la folie, j'adorais cette chanson, j'étais au taquet, surtout avec les seins tout pointus, ça m'amusait beaucoup évidemment. C'est, alors pour le coup, plus de 600 000 exemplaires vendus de 45 tours, ça crée meilleure chanson de l'année aux Victoires de la musique, ça a été un succès phénoménal.
Non, on n'a pas.
Victoire. Ah, bah, j'ai vu ça, moi.
Nommé, mais pas.
Ah, vous l'avez pas eu pas,
c'est,
ah, mince.
C'est la boîte de jazz qu'il a
vous
eu.
Vous l'auriez. Ah, elle est pas ouais. mal aussi. Vous l'auriez ouais. mérité quand même. Là, c'est marrant parce que j'ai l'impression, peut-être une de vos premières chansons, en tout cas populaires, qui rappelle vos racines guadeloupéennes,
oui,
parce que
oui.
les gens ne le savaient pas forcément que vous aviez des non, origines.
J'en parlais quand même ouais. dans les interviews.
Mais puis musicalement.
Roda Gil l'avait écrit à sa façon avec 10 mélodies, par exemple.
Mais musicalement, on avait. Pour le coup, là, on entend les Caraïbes.
Ouais, bien sûr. Et en plus, on l'a enregistré à Londres avec un producteur anglais, enfin irlandais.
Ouais.
Et c'est lui qui avait trouvé cette boucle-là, qui est la signature de la chanson. Quoi.
Et alors moi j'avais une copine de classe qui s'appelait Mélissa, à l'époque elle a dégusté quand même. Je sais qu'il paraît qu'il y a eu des Mélissa après, il y a eu des petites Mélissa.
Alors David McNeil.
Mais celles qui avaient 13-14 ans à l'époque, c'était dur à l'école.
Ah ouais, ouais. Non, David McNeil qui a écrit les paroles, quand il a vu que la chanson décollait, alors il allait à la mairie de je ne sais quelle, de sa mairie de où il habitait.
Là où il habitait, ouais.
Il allait regarder combien il y avait de Mélissa.
Pour voir si elle avait eu de l'impact, la chanson. C'est génial. On pourrait vous écouter des heures, d'ailleurs on va continuer à vous écouter jusqu'à midi, parce qu'on a tous une histoire avec vous, finalement. Et puis, certains ne le savent peut-être pas, mais vous avez aussi composé des mélodies et des tubes pour les autres. La preuve, on va en écouter une. Rue des Acacias, tube de Marc Lavoine. La musique, c'était Julien Clerc. Rue des Acacias sur M Radio.
Jusqu'à midi. Christophe Beaugrand sur M Radio.
Bienvenue Julien Clerc sur M Radio jusqu'à midi. On va parler de la nouvelle édition de l'album Une Vie, dans laquelle il y a quelques bonus, notamment cette maquette de Garçon Triste.
J'aime ce garçon triste, et comme à chaque sourire, il semble s'excuser. J'aime comme il sait croire, comme il sait s'éblouir du délice d'exister.
Alors c'est une chanson que vous avez composée, donc Carla Bruni a écrit les paroles. À la base, c'était pour Isabelle Boulet en 2018.
J'aime ce garçon triste, comme à chaque sourire, il semble s'excuser.
Et c'est produit par Biolay.
Exactement, produit par Benjamin Biolay. Et puis Carla Bruni l'a reprise sur son propre album en 2020.
Oui. J'aime ce garçon triste.
Donc on a trois garçons tristes possibles.
Oui.
Il semble s'excuser.
Il y a le choix.
J'aime comme il sait croire.
Et c'est là qu'on voit à quel point, puisque vous êtes bien placé pour le savoir, les mots c'est une chose, mais l'interprétation, c'est pas la même chanson qu'on écoute là. Ce sont les mêmes paroles, la mélodie est similaire, mais les chansons sont différentes.
Le tempo est pas le même. Et puis, moi j'aimais beaucoup cette musique. Et je crois qu'Isabelle l'a jamais entendue, parce que comme le projet était venu par Carla.
Ouais.
Je lui ai envoyé ce que vous avez entendu, c'est-à-dire
donc
moi
ça c'est la maquette que vous avez envoyée
voilà,
à Isabelle
Boulay. Que j'ai envoyée à Carla et après je pense
à
qu'elle
Carla Bruni, d'accord.
Elle a rechanté et elle a envoyé sa version à elle, à Isabelle. Je ne sais même pas si Isabelle Boulay connaît cette version.
Ah, Julien Clerc, j'avais aussi envie de parler de vos engagements ce matin, car évidemment à côté des chansons d'amour, des chansons légères, vous avez toujours parlé de la vie, de la société, des grandes causes. Comme dirait l'autre, vous voulez être utile.
Je veux être utile à vivre et à rêver.
Ça veut dire qu'une chanson, un artiste, peut servir entre guillemets à quelque chose au-delà de divertir, ce qui est déjà très important, mais peut-être utile.
Oui, c'est ça, mais quand même être artiste quand on a la chance de pouvoir chanter longtemps. On accompagne les gens de son pays quand même dans la
vie. Donc la société.
Et on accompagne la société. Je pense profondément qu'on peut tout chanter. Encore faut-il, je vous l'ai dit tout à l'heure, trouver les mots.
Ouais.
Et des fois, on peut pas chanter, surtout quand on n'est pas auteur, un sujet qui nous tient à cœur. Là, c'est un cadeau que m'a fait Rodagil, parce que dans cette chanson, il m'a apporté le texte et je l'ai mis en musique. Mais je ne savais absolument pas qu'on me la réclamerait souvent, et en particulier pour des moments graves de la vie de notre pays. Ça, c'est un autre cadeau. Je le dois à Rodagil, vraisemblablement, et à ces mots, qui au début, ne me semblaient pas vraiment être des mots de chanson. Mmh. Quand j'ai vu écrit utile en haut de la feuille qu'il me donnait, là, je me suis dit...
Mais c'est pas un titre de chanson, ça.
C'est pas un titre de chanson.
Et du coup, c'est là encore, c'est le texte qui est arrivé d'abord et vous avez fait une musique...
Là, c'est le texte qui est arrivé d'abord, oui.
Alors, il y a une cause qui vous tenait particulièrement à cœur, on en a beaucoup parlé récemment, c'est la lutte contre la peine de mort, évidemment. Ouais. Vous avez chanté la chanson L'assassin assassiné. Là, le texte bouleversant signé d'Abadi en 1980, un texte qui vous avait valu à l'époque les remerciements de Robert Badinter, qui n'était pas encore d'ailleurs garde des Sceaux, c'était avant qu'il devienne ministre de la Justice, et c'est lui qui allait, on le sait, abolir la peine de mort dans la foulée de l'élection de François Mitterrand en 1981, et vous l'avez rechanté, cette chanson, il y a quelques semaines.
Et alors, il y a une chose qui est amusante à dire, parce que dans la vie, il ne faut pas se braquer, jamais, il ne faut pas avoir son ego placé au mauvais endroit. Quand ils m'ont invité, ils m'ont dit, on a un seul problème.
Donc au Panthéon, pour la panthéonisation de Robert Badinter, c'était le 9 octobre dernier.
Exactement. Ils m'ont dit, écoutez, on a un problème, elle est trop longue, la chanson. Et je leur ai dit, je suis d'accord avec vous.
Ah oui, pour la cérémonie, c'était trop long.
Et je leur ai dit, vous avez raison, en fait. Elle est trop longue, et on va la couper. Et vous voyez, toutes ces années passées, là, toutes ces tournées, à chaque fois, elle se présentait à moi, puis je la mettais de côté. Je disais, non, elle est trop longue. Ouais. Je ne peux pas infliger ça aux gens, c'est trop long.
Elle durait combien de temps ?
Elle faisait plus de 6 minutes, ce qui était trop, je veux dire, dans un tour de chant.
Là, elle fait 4 minutes, à peu près, la version.
On l'a coupée pour la panthéonisation, et j'ai hâte de la rechanter maintenant au concert.
Alors, on va la réécouter un petit peu, justement.
Lorsque le couteau est tombé, le crime a changé de côté.
Là, c'est la version live du Panthéon. Ça met la chair de poule quand même. Ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas chanté en
très
public.
Longtemps. Ouais. Depuis l'époque.
Ça faisait 40 ans que vous ne l'aviez pas chanté.
Il y a une tournée qui a suivi où j'ai chanté pendant un certain temps, puis après, j'ai arrêté. Mais là, le fait de l'avoir un petit peu coupé en gardant ce qui était important du texte de Jean-Loup et de l'avoir orchestré fait que maintenant, dans la façon qu'on a d'écouter les chansons, qui est une façon qui a évolué. Mmh. Les musiques, les artistes, au fur et à mesure du temps qui passait depuis que moi je chante, ont fait évoluer la façon d'écouter la musique aussi. Et je pense qu'il ne faut pas se braquer dans la vie, il faut plutôt vivre avec son temps.
Ouais.
Et là, on a fait un arrangement, un bel arrangement, on va dire, classico-synthé. Et la chanson est raccourcie. Et maintenant, j'ai vraiment hâte de la refaire.
Alors, est-ce que vous allez la rechanter dans votre tournée qui commence en 2026 là.
Oui, parce qu'elle s'appelle Une vie. Donc, c'est quand même un moment important de ma vie.
Et de la vie des Français, d'ailleurs. Et de la vie de l'histoire.
Oui, parce que
pays,
c'est toujours quelque chose qui est clivant, cette histoire de peine de mort.
Ah oui, certains en parlent toujours.
Bien sûr.
Même si, a priori, ça ne bougera pas. Mais...
Même à l'époque, c'est pourquoi que Mitterrand avait été fortige. Parce qu'il avait quand même, sur ce sujet-là, près de moins de 70% de la population qui n'était pas de son avis.
Non, effectivement, les gens étaient contre.
Ouais. C'était contre, et il fallait du courage. À un moment donné aussi important de sa vie, où il se présentait pour la fonction suprême, de dire, moi, je l'abolirai quand même. Il allait contre l'avis de 70% des gens. Je pense que cependant, le fait de se montrer un homme de conviction sur une chose aussi grave, les gens... Je suis sûr, les gens se sont dit, c'est courageux de faire ça.
C'est respectable en tout cas. Même ceux qui n'étaient pas d'accord,
exactement.
Il va au bout de ses convictions. Allez, on continue de parler du nouvel album de Julien Clerc, qui parle aussi d'amour, bien sûr. Donc restez avec nous sur M-Radio.
M-Radio, M-Radio. De 10h à midi, Christophe Beaugrand sur M Radio.
Julien Clerc est avec nous ce matin sur M Radio jusqu'à midi. Ça vous dirait qu'on parle un petit peu d'amour ?
Et si tous les destins s'achèvent, et si vivre n'est rien qu'un rêve, à peine une minute brève, en serais-je moins fou de toi ?
Ce sont les mots de Serge Lama.
Oui. C'est incroyable parce que avec Serge, on a à peu près la même longueur. On a à peu près commencé à chanter ensemble, lui un peu avant moi peut-être. Mais on s'était croisés, mais on ne se connaissait pas très bien. Et puis à part...
C'est la première fois que vous travaillez
avec lui. Il y a quelques
années,
j'avais écrit deux musiques pour lui, pour un de ses albums.
Ouais.
Mais enfin là, c'est la première fois que je lui réclamais des textes.
Et là, une très très belle chanson d'amour. D'ailleurs, l'album c'est Une vie, et Une vie c'est forcément fait d'amour aussi. C'est souvent l'inspiration numéro un des chanteurs, j'ai l'impression.
Vrai. C'est vrai que j'ai encore envie de parler de mes auteurs. C'est vrai qu'ils m'ont beaucoup fait chanter l'amour. Donc
et puis, ils vous ont raconté vos histoires d'amour à vous aussi, parfois.
Un peu, oui, un peu.
Et avec les hauts et les bas.
Bien sûr.
Il y a eu des rebondissements, on va dire.
Bien sûr. Mais vous savez, c'est normal qu'ils s'inspirent de la vie de leur interprète. Ouais.
Est-ce que, par définition, vous avez eu des belles et grandes histoires d'amour, mais est-ce que c'est difficile, à votre avis, de partager la vie d'un chanteur ? Parce que quand on est sans arrêt sur les planches, qu'on est dans la séduction, même si c'est pour séduire le public de manière générale, mais quand même, fait de la concurrence. Est-ce que c'est difficile,
bien sûr,
à votre avis ?
À mon avis, oui.
Autant pour les enfants que pour l'épouse,
Il
faut partager l'affection ?
En même temps, moi j'ai voulu avoir tout. Alors je ne dis pas que j'ai tout bien fait, mais j'ai quand même réussi à avoir une vie de famille à côté, si vous voulez. J'étais pas obsédé à ce point par ma propre personne. Donc, c'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, on revient au tout début. Dieu merci, j'ai été influencé, quand j'étais encore adolescent, par des gens qui faisaient des carrières et qui disaient des choses dans leurs chansons.
Ouais.
Donc, tout naturellement, mon cœur m'a porté, on va dire, vers cette forme de carrière.
Tu as envie de raconter des histoires.
Voilà.
Et des histoires de vie.
Et surtout d'écrire des bonnes chansons. En fait, c'est ce qui m'a semblé le plus important, quitte à ce que, par moment, le public soit pas complètement au rendez-vous. Mais au moins, pour reparler de Mitterrand, quand je l'avais croisé la première fois dans ma vie, il m'avait dit, ah, c'est bien, vous tracez votre sillon. J'ai réfléchi à cette phrase-là par la suite. Mais c'est vrai, il avait raison. En fait, dans une vie d'artiste où, comme vous dites, on cherche à plaire, bien sûr, et qu'on cherche à être aimé, il faut cependant ne jamais abdiquer sur ce qu'on trouve le plus important. Et moi, pour moi, le plus important, c'est d'essayer de faire de la bonne musique, des bonnes chansons, et de les chanter. Et après, de souhaiter très fort que le public veuille bien venir au rendez-vous.
Voilà, une déclaration d'amour aux femmes, mais là c'est plus une chanson féministe qu'une chanson d'amour. C'est l'amour dans le sens le plus noble peut-être.
Mais c'est ce que me disait Dabadi à l'époque. Il me disait, tu sais, je l'ai écrite pour toi cette chanson.
Ouais.
Et il devait dire un peu dans sa tête pour nous, parce qu'on avait la même vision de l'amour, lui et moi. Mais il m'a dit, je l'ai écrite pour toi. Si Johnny ou Sardou m'avait demandé une chanson sur les femmes, c'est pas ces mots-là que j'aurais écrit.
Oui, il s'est glissé dans vos pas. Vous le disiez tout à l'heure, votre vie de famille, c'est important. Vous êtes aussi papa. Et il y a une chanson magnifique sur votre album que j'adore. Un père, c'est fait pour ça.
Pleure autant que tu voudras. Ta tête sur mon épaule. Un père, c'est fait pour ça.
Et vous êtes 5 fois papa.
On connaît bien Calo, là.
Oui, il y a Calogero.
Il fait les cœurs. Ouais.
3 filles et 2 garçons. Alors, vos enfants pleurent de temps en temps, encore aujourd'hui, même quand ils sont grands, la tête sur vos épaules.
J'ai bien dû.
Sur votre épaule.
Ils sont grands. Hein. Ils sont, le dernier, il a 17 ans.
Ah, il peut encore
mais
pleurer.
Les autres,
hein.
Ils sont tous pères de famille ou mères de famille. Mais, non, d'ailleurs, il y en a un qui n'est pas père de famille, c'est vrai. Mais enfin, les filles, sont toutes mères de famille. Là, c'est une chanson pour une adolescente qui a un chagrin d'amour
une
d'été.
Peine de cœur.
Donc, mais enfin, j'ai bien dû vivre ça.
C'est fait pour ça, un papa, en tout cas.
Bah oui,
consoler.
Aussi.
On va parler de vos filles, notamment deux de vos filles qui sont quand même artistes. L'une, Jeanne, fait du cinéma avec très grand succès, même César, etc. Jeannerie.
Ouais.
Et l'autre, Vanille, fait de la musique.
Si tu suivais le soleil, juste pour changer de peau, il caressait ton sommeil, te ferait le pays.
Alors le monde d'aujourd'hui fait qu'elle a des millions de vues à travers le monde. C'est incroyable.
Elle a eu un succès absolument incroyable avec cette chanson, et effectivement à l'international, alors que les gens ne comprenaient pas forcément les paroles, mais la chanson a cartonné. Ça, vous, j'imagine que ça doit vous émouvoir et vous faire plaisir que vos enfants suivent des carrières artistiques.
Oui. Vous savez, la seule chose que je leur ai dit, qui peut-être leur a servi à quelque chose, c'est que j'aurais dit quand viendra le moment de choisir l'occupation de votre vie, essayez de pas penser à l'argent. Essayez de penser à ce qui va vous rendre heureux. Et éventuellement, l'argent suivra, vous pourrez en vivre. Mais je crois que ce qui est important dans la vie, c'est de faire une occupation qui nous remplit de bonheur. Donc chaque matin, quand on se lève, on est heureux d'y aller.
Ouais, ça change tout et c'est très important. Ça vous dirait qu'on écoute en entier Vanille, du coup, parce que on adore suivre le soleil. Et c'est rigolo parce que j'ai fait une interview de Vanille il y a pas très longtemps à la télévision et j'ai retrouvé une image de vous. Vous avez fait une interview à Sacrée Soirée le lendemain de sa naissance.
Ah oui,
avec Jean-Pierre Foucault.
Oh, c'est drôle. Ça.
Et vous disiez, les gens pensaient que c'était une blague. C'est quand j'ai dit Vanille comme prénom et ça plaisait pas à tout le monde dans votre famille,
pas,
il paraît.
Non, c'était pas ça. Non, ça. C'est beaucoup plus mon fils d'après qui s'appelait Barnabé, où dans la famille, les gens d'un certain âge se référaient, vous savez, dans l'imaginaire français, Fernandel, il a joué le rôle d'un type comme ça dans un film en noir et blanc.
D'accord.
Barnabé. Il y avait une chanson Barnabé, Bébé, etc. Et là, il y avait des gens d'un certain âge de la famille qui prenaient pas ça bien. Non, Vanille, c'est carrément à la mairie. Je suis tombé, donc, comme tous les hommes, j'étais très fatigué par l'accouchement.
Oh, c'est
mon
les femmes
épouse.
Qui bossent, hein.
Et donc, j'étais allé paraser, etc., à la mairie. Et je suis tombé sur une femme, je dois dire, assez mal embouchée, qui m'a dit, ah non, Vanille, monsieur, non, c'est pas possible. Les enfants, vous savez, les enfants, ils sont cruels, hein. Ils vont se moquer d'elle dans la cour de récréation. Vanille, ça n'est pas possible. Alors, il me faut un autre prénom. Elle me l'a refusé, hein.
Ah ouais?
On avait heureusement un plan B. On l'avait appelé, comme ma femme, Virginie avait des attaches corse. On avait un prénom corse. On l'avait appelé Elisa. On est Vanille en deux.
Oui.
Mais tout le monde l'a appelé Vanille dès le premier jour.
Ah, mais
jour.
C'est son deuxième prénom.
Son deuxième prénom.
Mais qu'elle a toujours porté en premier, en fait.
Qu'elle a toujours porté en premier. Et depuis, elle a fait ce qu'il fallait auprès de l'administration.
Ah oui, elle l'a replacée en premier.
Elle l'a replacée en premier.
Mais... Et puis alors maintenant, en plus, elle est adoubée dans le monde entier. Vanille, suivre le soleil sur M Radio. M Radio,
M Radio. Tous les samedis, 10h midi. Bienvenue chez Beaugrand avec Christophe Beaugrand.
Et on est toujours avec Julien Clerc ce matin dans Bienvenue chez Beaugrand. C'est l'heure de la séquence la plus dangereuse de l'émission parce que j'ai ouvert les portes de mon grenier. J'ai une collection de disques assez incroyable. On commence avec une chanson que vous allez reconnaître au moins la mélodie. Les paroles, à mon avis, vous ne maîtrisez pas. Écoutez.
C'est du hollandais, ça,
exactement, c'est du néerlandais, 1974, elle s'appelle Connie van den Bos, et elle a donc repris, si on chantait, Owa den Dag, visiblement, ça me fait bizarre de s'entendre en hollandais. Hein.
Oui, mais j'ai eu un disque là, qui avait marché extrêmement fort en Hollande. Vous savez que si j'ai pu avoir Anton Corbijn comme photographe pour la pochette de l'album, Anton Corbijn, qui ne fait que des stars du rock'n'roll, etc., c'est qu'il a mon âge et qu'il avait acheté 10 mélodies. En Hollande, il y avait beaucoup
drôle.
De gens qui avaient acheté ça.
Et je bah donc, pense Connie van den Bos a fait une reprise, du
voilà,
coup.
Voilà, exactement.
Alors, est-ce que vous connaissez Will Tura?
Non.
Alors, lui, c'est un chanteur belge, néerlandophone également. Et en 1991, il a repris Cœur de rocker en néerlandais. Ça, c'est pas terrible. Hein. Celle d'avant était pas mal, mais là.
Ouais, je chante bien quand même.
Visiblement, vos chansons collent bien avec le hollandais.
Bah oui, écoutez.
C'était pas gagné. Bon. Sinon, j'ai trouvé des versions remix collector de vous. Je sais même pas si vous savez que ça existe. Mais des DJ vous ont repris, version électro notamment. Elle voulait qu'on l'appelle Venise.
C'est-à-dire qu'en fait...
Ça change.
Ça change. Le groove était là au départ. Ils ont juste monté Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont juste augmenté un peu le côté rythmique, mais le groove était là au départ.
C'est vrai. Ça, comme c'est ça. Un DJ français qu'on appelle l'Indécent. D'ailleurs, il y a un collectif de remixeurs, La Belle Vie, qui a également transformé, là encore, une chanson qui avait déjà du groove, Partir. Un poil plus disco, sans doute.
Oui, c'est ça. Ce qui est amusant, c'est que les DJ, en fait, ils ramènent à l'avant, au devant des oreilles,
ouais.
En fait, ce qui ont été les inspirations au moment où j'ai composé.
Mais j'imagine que ça vous touche de vous dire que, voilà, des gens de la nouvelle génération qui étaient peut-être même pas nés quand vous avez chanté Partir,
oui, oui.
Se réapproprient cette musique-là. Ça montre à quel point ça fait partie du patrimoine.
Et puis, ils se trompent pas, en fait, où ils le placent.
Ouais.
Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, il ne trahissent pas la chanson.
Dans l'espace sonore, voilà.
Et puisqu'on parle de reprise, j'ai trouvé une version super de Quand je joue. Alors là, c'est vous qui chantez. C'est pour la demi-finale de The Voice, vous aviez été coach. Vous êtes avec deux candidats qui faisaient partie de votre équipe, hein, deux talents.
Oui.
Léonard et Pierre Danaé. On va écouter, j'adore cette version. Là, c'était la saison 8 en 2019. Vous êtes bien amusé, ça vous a fait marrer de faire cette émission-là?
Oui. À la fois, ça bousculait quelque chose chez moi qui est de mettre des mots sur mes sentiments.
Ouais.
Et de m'obliger à le faire.
Ah, vous êtes mis un petit coup de pied au derrière.
Voilà, exactement. Et puis, de faire ça devant la caméra, parce que pour moi, ça n'a jamais été innocent de faire de la télévision.
Ouais.
Dès qu'il y a une caméra, il y a quand même quelque part dans mon corps un stress qui s'installe. Je suis assez traqueur, moi, donc là, tout d'un coup, ça remonte devant. Donc, ça m'a obligé à me faire à cette idée d'être devant une caméra tout le temps.
Ah bah oui, ça dure longtemps, parce qu'il y a
vous
beaucoup
scrute,
de tournages. Il y a 18 émissions, c'est des semaines de tournage. Hein, ouais.
Mais il y avait un côté dedans qui était formidable, c'était d'abord que c'est que malgré tout, même si c'est de la télé-réalité, c'est une émission musicale.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire qu'on entend plein de musique.
Il y a des musiciens, ça joue, quoi.
Et voilà. Puis, vous avez des jeunes interprètes. Moi, je n'étais pas toujours d'accord avec ce qu'ils faisaient des chansons.
Ouais.
Mais, et je le disais, d'ailleurs, peut-être de façon trop abrupte, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était intéressant parce que c'était de la musique.
Ouais, ouais. Oui, des gens qui ont envie de chanter, de faire cette carrière. Beaucoup qui, d'ailleurs, ont profité de émission pour se faire connaître et faire une carrière, même s'ils n'ont pas gagné. On est bien sur M Radio avec Julien Clerc. Vous allez dans un instant nous avouer tous vos secrets. A tout de suite. M Radio.
Tous les samedis, 10h midi. Bienvenue chez Beaugrand.
Toutes les semaines, on parle des secrets de nos invités. C'est un petit quiz qui va nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur ce qu'on ne sait peut-être pas encore de vous, mon cher Julien Clerc.
Mm-hmm.
Et puisqu'on parle de secrets, jingle.
Ici la voix. Il est l'heure de découvrir les secrets de l'invité dans Bienvenue chez Beaugrand.
Julien, quel est le secret de votre voix? Il paraît que c'est du boulot de la garder en bon état.
Oui, beaucoup. Mais c'est plus que du travail. C'est un...
D'ailleurs, je vous fais tousser.
À partir du moment où on comprend, où j'ai compris, j'avais commencé quand même très jeune, où j'ai compris que c'était le principal capital que la mère nature m'avait donné, que ça aurait été un crime de le laisser partir, si j'ose dire, c'était que par le travail qu'on pouvait maintenir, en plus ces compositions parfois exigeantes, ces compositions musicales que je me suis fait pour moi-même, parfois exigeantes.
Vous économisez pas, quoi, c'est
voilà,
ça.
Où ça monte, monte très haut, des notes comme ça très hautes qui s'envolent.
Non, mais c'est-à-dire qu'il faut pas fumer, par exemple, ou c'est compliqué.
Ouais, mais en tout cas, faut travailler.
Ouais.
Et souvent, je donne cet exemple-là. Les joueurs de tennis qu'on aime aujourd'hui, les sportifs, ils ont la chance de pouvoir existait plus longtemps qu'il n'existait avant.
Ouais.
Quand vous voyez Djokovic qui fait, comme ce qu'on a vu l'autre jour, cette espèce de grand écart sur un point au filet, c'est hallucinant à 38 ans d'être obligé de... Ça, ne nous l'aurons pas, ça n'est que du travail.
Ouais, c'est du boulot. Ouais. Est-ce que vous vous retournez encore quand on vous appelle Paul Alain? Parce que c'est votre prénom de naissance.
Il
n'y
a plus tellement de gens qui m'appellent Paul Alain. Ça, c'est sûr que si on m'appelle Paul Alain, je vais me retourner, ça c'est sûr.
C'est-à-dire que c'est assez rare comme prénom en même temps, Paul Alain.
Moi, j'ai détesté mon prénom, mais bon.
Ah oui?
D'abord parce que c'était la preuve que mes parents
n'étaient pas d'accord. C'est ça, ils n'étaient pas d'accord. Parce qu'il y en avait un qui voulait Paul et l'autre qui voulait Alain. Donc,
ils se sont disputés alors que j'étais même pas né. Donc c'est d'ailleurs
ça a démarré mal.
Voilà, c'est pour
d'ailleurs,
ça
n'a pas duré. Oui.
Voilà, ça n'a pas duré. Donc, mais en même temps, j'aime pas trop les prénoms composés. Ça serait une bêtise de dire que ça a été une souffrance. Mais dès que j'en ai eu l'occasion, c'est-à-dire de trouver un prénom qui me plaisait, je l'ai fait.
Et pourquoi Julien, là ?
Parce que pour moi, Julien, c'était romantique.
Ah oui, Julien Sorel, c'est ça ?
Et il y en avait très peu à l'époque. Hein.
Moderne aussi.
Quelques arrière-grands-pères qui traînaient, c'est tout. C'était un vieux prénom.
Ouais, qui est revenu à la mode depuis.
Et ça me plaisait.
Est-ce que vous êtes retrouvé héros de bande dessinée en 1975 dans Pif Gadget, vous étiez corsaire Julien. Est-ce que j'ai retrouvé ces pages. Est-ce qu'on se la pète quand on devient héros de BD?
Oh non, franchement.
Ah
non,
ça vous ressemblait bien en tout cas le dessinateur.
J'aimais beaucoup la BD moi. Alors j'étais heureux quand même d'avoir une BD parce que j'ai toujours été un gros lecteur de BD.
Donc vous étiez un corsaire qui vous battiez voilà, contre vous cherchiez des trésors.
Mais j'aimais bien le dessinateur qui avait fait ça.
Est-ce que c'est vrai que vous voyez toujours avec votre femme Hélène qui partage votre vie depuis plus de 20 ans quand même maintenant?
Bah ouais, mais bon, est-ce que c'est la différence d'âge? Quand on s'est connus, on s'est vouvoyés, on n'a jamais réussi à repasser au tutoiement.
Donc vous avez l'habitude maintenant.
J'ai quand même une tendance à vouvoyer les gens. Hein.
Ouais. Non, mais enfin là, quand même, vous la connaissez bien.
Ouais, mais ça n'empêche pas. Vous savez, je donne toujours cet exemple. Si ça vous amuse de regarder un vieux film français qui est remarquable, qui s'appelle La Grande Illusion, où il y a Gabin, où il y a Pierre Freinet, que des grands acteurs, un film de Renoir. Il y a un personnage comme ça, qui est Pierre Freinet, qui est un espèce d'officier à la vieille école française. Et Gabin lui dit, lui officier aussi, mais il y a des milieux populaires, lui dit quand même, on vient de passer, ils sont en captivité, vous savez, on vient de passer des mois ensemble, jamais on s'est tutoyé. Et l'autre lui répond... Mais vous savez, moi, je vous vois ma mère, je vous vois ma femme, ça n'empêche pas les sentiments.
Vous avez fait de la chirurgie esthétique pour faire à ce point moins que votre âge ? Ou alors vous y mettez quand ? Je ne sais pas, parce que c'est incroyable.
Non, si j'aurais une autre tête. Si j'avais
fait vous en sortez bien quand même.
Esthétique.
Vous avez 78, c'est ça ?
Hein ?
Vous avez 78 ?
78.
Ah bah vous faites moins, je vous assure.
Oui, mais regardez, je faisais moins quand j'avais 16 ans aussi. Hein.
Ah oui, ça a commencé
même
tôt.
Même beaucoup moins. Et quand j'ai commencé à chanter, j'avais quand même... Vous voyez, vous avez dit vous-même...
Moi, je croyais 18, 19, vous
aviez
21.
Non, 21, non.
Vous aviez 21. Ouais. Bon, le mot retraite, c'est la dernière question. C'est un gros mot quand on est chanteur ?
Ah, c'est drôle. C'est pas un gros mot, mais c'est un mot, si possible, interdit.
D'accord, mais vous avez
si
votre trimestre à priori.
Interdit, c'est bien.
Là, vous n'en avez pas besoin pour l'instant, en tout cas, de la retraite. À suivre la bande originale de votre vie, c'est juste après ça. M-Radio, M-Radio.
Bienvenue chez Beaugrand, 10h midi sur M-Radio.
On est avec Julien Clerc sur M-Radio jusqu'à midi et toutes les semaines, on refait la vie de notre invité avec quelques petits extraits sonores qui vous ont marqué, Julien. Alors, vous nous avez donné les infos avant, j'ai préparé les musiques. Voici le premier disque français que vous avez acheté. J'adore cette chanson, Sylvie Vartan.
Tous les copains m'aiment bien.
Et vous savez en plus que socialement, sur le plan de la société et de l'histoire de France, c'est une chanson, c'est pas n'importe quoi.
C'est-à-dire
ses copains, ils sont partis à la guerre d'Algérie.
Ah, c'était une chanson qui parlait de ça.
Ouais.
Ah oui, alors j'avais jamais imaginé le contexte, j'avais jamais fait attention à ça.
Tous mes copains sont partis, je crois, elle dit à un moment donné. Donc je vais dire, c'est une chanson, c'est pas une chanson gratuite.
Oui, ça raconte quelque chose. Ouais. Et du coup, là, c'était vraiment quelques années avant que vous lanciez dans cette carrière. Quand vous avez vu tous ces jeunes de l'époque yéyé cartonner, ils avaient 19 ans, ils étaient tout jeunes.
Oui.
C'est là que vous vous êtes dit, c'est possible d'être jeune, de démarrer comme ça.
Généralement, dans la chanson,
est-ce que vous y avez
une
15
génération
ans,
réagit par rapport à celle d'avant.
Ouais.
Donc celle d'avant, c'est les yéyés. Moi,
c'était pas yéyé, effectivement.
Moi, à 14 ans, j'écoutais du jazz. J'écoutais depuis l'âge
Brassens,
de 4 ans et demi Brassens,
ouais.
C'était l'artiste de ma mère. Bon, donc j'étais plutôt porté vers un autre genre de chanson. Mais cela
mais vous
dit,
avez quand même acheté Sylvie Vartan.
J'ai quand même acheté Sylvie Vartan et Françoise Hardy. Et voilà, et je suis allé voir Johnny sur scène, etc. Donc quand même, j'avais beau affectionner la génération d'avant et les chansons.
Vous étiez quand même, vous aimiez bien quand même les trucs à la mode de l'époque, évidemment. Ouais,
effectivement, parce que c'était le rock'n'roll et qu'il y avait des très très bonnes adaptations.
Oui, parce que c'était généralement les tubes américains qui étaient adaptés, traduits en français à l'époque. Hein, tout ça, toutes les premières chansons
de
Johnny, etc.
En dehors de François Hardy, hein, qui elle écrivait, etc. Mais sinon,
c'est vrai, Dick Rivers, Eddie Mitchell, Johnny,
tout
ça.
Même Claude François et tout, c'était beaucoup, beaucoup d'adaptations.
Le générique de dessin animé culte pour Julien Clerc, c'est ça. Alors là, chef d'œuvre. Ouais. The Lion King, le roi lion.
C'est pas tout à fait ma génération, parce que quand vous m'avez posé la question...
Oui, j'avais mis de votre enfance, mais...
Je suis allé chercher dans mon enfance. Mon enfance, c'est plutôt Blanche-Neige. Ouais. J'adorais d'ailleurs la chanson « Un jour, mon prince viendra ». Mais quand j'ai regardé toutes les chansons de Disney, je me suis dit, il faut que je mette celle-là, parce que
Elton
ça, j'adore.
John. Ouais. Elton John, extraordinaire. Vous avez la chance de l'avoir rencontré, Elton John ou...
Non, très peu. Une fois sur un plateau de télévision, quand il faisait encore des télés en France.
La plus belle voix, selon vous, c'était elle? Whitney Houston. Extraordinaire voix.
C'est un drame, Whitney Houston. Que le drame... Le drame de des choses qu'il faut pas prendre,
ouais.
Et qui
oui,
transforme.
La drogue qui l'a détruite.
Voilà, c'est la drogue qui l'a détruite, et ça a commencé par sa voix. Mm-hmm. Il y a un duo tragique entre elle et Mary J. Blige, où elle est sur la descente, et où elle se fait damer le pion vocalement par Mary J. Blige, et c'est trop triste.
Et elle a la voix brisée.
Trop triste, trop triste.
Mais c'est un parcours d'une chanteuse des voix, des chansons qui restent, qui sont extraordinaires.
Ah, extraordinaire, parce que les gens qui ont écrit les chansons pour elle, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes.
Et on va écouter la chanson préférée de vos enfants. Je crois que c'est la chanson préférée de Vanille, me semble-t-il.
Vanille, parce que je l'accompagnais à l'école, en voiture, et on chantait le Kangourou de Charles Trenet.
Kangourou, kangourou, mon gentil petit kangourou.
C'est trop mignon, je la connaissais pas cette chanson.
On t'aimait ici beaucoup.
Et alors, de coup, ce que j'apprends, c'est que vous étiez donc le papa qui accompagnait sa petite fille tous les matins à l'école. Comme quoi, les chanteurs sont pas toujours sur la route en tournée, ils s'occupent aussi de leurs enfants au quotidien.
Je pense qu'on n'est pas en tournée toute la vie. Et quand même, quand je rentrais, j'ai fait ça.
Julien Clerc, dans quelques minutes, on va répondre aux questions que les auditeurs de M Radio nous ont envoyées, rien que pour vous.
Jusqu'à midi, Christophe Beaugrand sur M Radio.
Et j'ai la chance ce matin d'être aux côtés de Julien Clerc dans le canapé rouge de M Radio. On a lancé un appel, mon cher Julien, sur les réseaux sociaux de M Radio pour avoir des questions de la part de nos auditeurs. On en a sélectionné 3 ce matin. Si vous voulez faire la même chose, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. 06 95 094 094. On commence avec Florence.
Bonjour Julien, bonjour Christophe. Julien, vous avez déjà joué dans une comédie musicale. Est-ce que vous seriez prêt à retenter l'expérience?
Merci
beaucoup et bonne journée.
Merci beaucoup.
Aujourd'hui, vous pourriez?
Ah oui, je
c'était
pourrais.
C'était R, donc mais la comédie musicale, vous en avez parlé tout à l'heure.
Alors là, bon, c'était une chance inouïe parce que... Il y avait au moins 12 tubes là-dedans.
Il y avait spectacle. Laissons entrer le soleil, évidemment, qui est la plus marquante, mais il y en avait plein d'autres.
Toi, Aquarius, tout ça, où vais-je aller? C'était...
Mais vous pourriez jouer un rôle dans une comédie musicale? Si on vous proposait ça, ça vous amuserait?
Ça m'amuserait, c'est toujours pareil. Si la musique est bonne, chanter la musique d'un autre, ça me ferait des vacances. Oui, non, j'adorerais. Ouais.
Une question de Louis maintenant.
Bonjour Julien, bonjour Christophe. Julien, quel est votre meilleur souvenir de voyage? Merci beaucoup.
Oula, meilleur souvenir de voyage?
Alors, je n'ai pas été un très bon voyageur dans ma vie, mais j'ai quand même beaucoup voyagé pour mon métier. Un des plus frappants, ça a été quand on a fait une tournée asiatique en petite formation, et au Cambodge, quand on est allé chanter, où il y avait une ferveur dans la salle.
Donc vous êtes connu dans certains pays d'Asie, alors?
Pardon?
Vous êtes connu dans certains pays d'Asie, en
tout cas. Ouais. Et là, au Cambodge, c'était pas si loin, les Khmers Rouges. Il y avait... Dans chaque famille, je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait été tué par les Khmers Rouges. Et donc, ça se sentait beaucoup.
Ah oui, on sentait l'émotion.
Et le Phnom Penh, là, c'était une ville un peu dévastée. Le seul... S'il y a que là, comment on appelle ça? L'Alliance française, qui leur passait des films, etc. Pour la vie culturelle, l'Alliance française était très importante. C'est eux qui nous avaient fait venir, d'ailleurs. Et j'ai le souvenir d'un concert avec une très très grande ferveur qui sortait de l'ordinaire à Phnom Penh.
Allez, une autre question avec Mallory.
Bonjour Julien, bonjour Christophe. Alors Julien, j'ai une question. Quel serait pour vous le repas le plus réconfortant pour un soir d'hiver?
Merci beaucoup. Ils ont envie de manger. Là.
Pour un soir d'hiver?
Oui, une bonne raclette.
Moi, pour moi, c'est des plats typiquement français.
Ouais.
C'est-à-dire, soir d'hiver, c'est pot-au-feu.
Ah, pot-au-feu, c'est pas mal.
Pot-au-feu avec le bouillon d'abord, et puis ensuite, avec le choix des différentes viandes. Et en même temps, c'est un repas de roi, parce que c'est cher, un pot-au-feu. Je vais dire, on peut faire des pot-au-feu simples, mais normalement...
Si on veut les bonnes pièces de viande.
Alors, si on veut un plat moins cher, c'est la blanquette, qui est la blanquette de veau, qui pour moi aussi est un plat... Alors là, pour le coup, franchement, une blanquette réussie, pour moi, c'est un chef-d'œuvre.
Vous faites des kilomètres. Mais vous aimez bien la bouffe, alors hein?
Beaucoup, ouais, j'aime beaucoup la
bouffe. Et comment vous avez fait pour garder la ligne toute votre
alors,
vie, là?
J'ai eu... À un moment donné où j'ai fait un régime avec un... J'en parlais beaucoup d'ailleurs à l'époque, où le gars m'avait... C'est pas qu'il m'avait obligé, c'est moi qui l'avais obligé.
Un diététicien?
Qui lui avait dit, ouais, qui lui avait dit, je veux que vous me mettiez les grammages,
ouais.
Parce que comme moi je suis gourmand, je mangerai jusqu'au moindre gramme que vous me mettez.
Oui, d'accord, bon. Mais vous voulez rester dans les clous, pas un gramme de plus, mais pas un gramme de
exactement,
moins.
Exactement, pas un gramme de
d'accord.
moins. Et en fait, quand j'ai fait ce régime, ça m'a fait comprendre pas mal de trucs sur les aliments, sur les tout ce qui est pain, riz, pâtes, etc. Et malgré tout, si je ne me prive pas de nos jours, je garde quand même ce régime-là en tête. Ça m'a servi.
Ça a marché en tout cas. Ça vous a réussi?
Oui, oui, ça m'avait réussi, parce qu'il avait retiré toutes les graisses,
oh là
tous
là.
Les sucres,
oh là là.
Et il les avait remis petit à petit.
Ah d'accord, quand
donc
même.
J'ai eu une notion, vous voyez ce que je veux dire, du rapport quand même, qu'il valait mieux ne pas dépasser, etc.
Ah mais c'était ça, je vous ai demandé les secrets de la jeunesse éternelle, c'était peut-être ça, hein, c'est la bonne alimentation. Allez, on se retrouve dans un instant, on a encore quelques instants pour parler de vos dates importantes, les dates importantes de votre vie et des musiques qui y sont associées.
Ouais.
De 10h à midi, Christophe Beaugrand sur M Radio.
Et j'invite Julien Clerc dans ma machine à remonter le temps, car on va écouter maintenant les tubes qui correspondent aux dates de votre vie.
Ouais.
Julien, vous êtes né le 4 octobre 1947. Bon, déjà, on est impressionné, évidemment. Et qui était numéro 1 des ventes en France en octobre 1947 ? Les sœurs Étienne. Amado mio. Dans tes lèvres.
C'est dans la tradition, une tradition américaine de chanteuses comme ça qui chantent de façon très harmonisée. Alors c'est la version française un peu de cette mode de l'époque.
Comme les Andrew
je
Sisters,
dois dire
c'est
que
ça.
Bon, c'est bien les sœurs Étienne, mais je dois dire que les Andrew Sisters, ça c'était beaucoup plus, par exemple, aux États-Unis, c'était quand même plus abouti.
Bon, on va aller un petit peu plus loin. Donc le 9 mai 1968, sortie de votre premier 45 tours. Donc 9 mai 68,
ouais.
Mais qu'est-ce qui cartonnait également en mai 68 un de vos collègues chanteurs stars de la variété française?
Dans le château de Laz, le plus grand bal de Londres.
Sublime chanson.
Une de ses grandes chansons.
La
parole de Dabadi. Hein.
À part le Dabadi, magnifique chanson. Autre date importante, le 16 décembre 1970, première Olympia en vedette avec la comédie musicale Air.
Ah mais c'était pas l'Olympia.
Ah, c'était pas l'Olympia, pardon. Ah, je croyais.
Mince. En tout cas. C'est au Théâtre de la Porte Saint-Martin.
D'accord. Théâtre de la Porte Saint-Martin. Et alors, ce qui est rigolo, je sais pas si vous vous rappelez, c'est vraiment un autre style. Qui était numéro 1 des ventes en France en cette veille de Noël 70 celui qu'on vous a beaucoup opposé pendant des années.
Mais voilà, j'habite en France.
C'est Michel Sardou. J'habite en France, parce que vous aviez plutôt l'image du chanteur un peu moderne de gauche et lui plutôt l'image du chanteur de droite. Voilà.
Mais moi j'étais allé voir ce spectacle à l'Olympia, quand il chantait ça, et puis la chanson merveilleuse là, quand ils sont au bal et quand ils sont au comptoir, mais nous on ne danse pas, etc.
Ah oui, on est là pour boire un coup, on est là pour faire des fous.
Je me souviens d'être allé voir ce spectacle et d'avoir été... d'avoir senti l'ouragan qui était en train d'arriver.
Ah oui, parce qu'il y a une puissance à la fois vocale et même il dégage un truc impressionnant.
Il y avait quand même à l'époque il montait à des hauteurs stratosphériques en pleine voix, qui ça ne pouvait que ébranler un chanteur comme moi.
Donc les médias vous ont peut-être un petit peu opposé, mais vous étiez admiratif de sa voix.
Ah, toujours.
C'est vrai qu'il a chanté Je suis pour la peine de mort, et vous avez chanté L'assassin assassiné. Bon, voilà.
Oui, mais je comprenais très bien en chantant L'assassin assassiné qu'on soit pour. Vous voyez ce que je veux dire.
Non,
après, c'est des questions c'est des choses qu'on a au fond de soi.
Non, puis on peut ne pas être d'accord et s'estimer.
Exactement.
Voilà, ça c'est pas un souci. Ouais. 27 juin 1982, sortie d'un de vos plus gros succès, Femme, je vous aime, et en même temps un certain Daniel Balavoine est numéro 1. C'est toujours rigolo de regarder les années, ce qui correspond. Et tiens, on a parlé de Mélissa tout à l'heure. Mélissa Métis d'Ibiza, énorme succès. Mais qui d'autre cartonnait à l'époque? C'était un chanteur international, une star disparue depuis, hélas. Magnifique chanson de Prince, évidemment, Purple Rain. Et tiens, pour finir, j'ai choisi une date plus récente, le 9 février 2019. C'était votre première, en tout cas la diffusion de l'émission. Vous aviez tourné quelques semaines plus tôt, coach de The Voice pour la 8e saison de l'émission. Et il y a une petite Belge qu'on découvrait à ce moment-là. C'est Angèle.
Remarquable premier album.
Vous aimez Angèle donc?
J'adorais le premier album.
Ah, d'accord, vous avez moins aimé après. Et bien, vous savez quoi? On va profiter d'écouter les débuts d'Angèle, le premier album, Tout oublié, et on retrouve Julien Clerc juste après. M Radio. Quand tu veux.
De 10h à midi, Christophe Beaugrand sur M Radio.
Merci de tout cœur à Julien Clerc d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette balade musicale. La réédition de l'album Une vie avec des maquettes inédites de plusieurs titres. Magnifique album avec notamment le tube Les Parvis.
Il tourne, il danse sur les pavés du parvis. Dans ses bras, il tient l'absence, son bel amour qu'on a ravi.
Une soixantaine de dates de concerts sont prévues un peu partout. C'est
pour l'instant.
Une vie. Ça, vous m'avez dit que vous alliez en rajouter.
Non, je pense qu'on va être sur une tournée d'à peu près 2 ans et demi.
D'accord, ah oui, c'est costaud. Ça commence le 18 février donc à Montélimar. Vous serez partout dans toute la France. Donc allez-y, achetez les places dès maintenant parce que ça va se remplir très très vite. Et le fameux Bercy en octobre 2027 pour vos 80 ans, on a du mal à y croire. Peut-être vous aussi d'ailleurs. Vous prévoyez un spectacle spécial, j'imagine.
Oui, sans doute.
Bercy quand même, ça va être. Vous allez avoir 15 000 personnes ou même plus.
Non, je ne sais pas combien il y a. Oui, Bercy, de 11 000.
En tout cas, ça va être un show différent parce que vous faites pas mal de petite salle pour les concerts là. Donc
oui, ça sera un show différent. On adapte le spectacle aux scènes où on passe, et donc il y a selon les scènes un nombre de musiciens qui change, et aussi il y a des scènes où il y aura pas les écrans, puis il y a des scènes où il y a les écrans.
Bon, en tout cas, on a hâte de voir ce Bercy en octobre 2027. En attendant, profitez de la 7e dizaine. Hein, ça marche très bien là. Et donc le concert, 18 février, le premier, et après ça enchaîne.
Ouais.
Vous ne serez pas souvent à la maison, hein, j'ai l'impression.
Si, quand même.
Si, quand même, il y aura des allers-retours.
Je chante à peu près 3-4 fois par semaine.
Bon, ça va alors, il y aura des allers-retours. Oui. Le podcast de l'émission est dispo sur le site de M Radio. On se retrouve samedi prochain, 10h midi, et on sera avec Jennifer Ayash, la chanteuse du groupe Superbus. D'ici là, n'oubliez pas, soyez beau, soyez grand, soyez beau grand. Ciao, à la semaine prochaine.
Au revoir.